Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Allezarme, Tiffaine de Roquigny, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Nous poursuivons donc notre série autour de ces frontières sous haute tension. Après avoir évoqué la ligne durant lundi, la frontière entre l'Inde et le Pakistan mardi et les frontières mouvantes d'un hypothétique État kurde hier, place à notre dernier volet que nous allons consacrer donc à l'Irlande, ou plus exactement aux deux Irlandes. En effet, le Brexit est venu raviver la question de la frontière entre la République d'Irlande, membre à part entière de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui appartenant au Royaume-Uni, devrait en sortir. Le territoire pourrait être directement affecté par ce Brexit. Les 4,5 millions d'Irlandais du Sud et les 1,8 millions de Nord-Irlandais pourraient alors se retrouver séparés par une nouvelle frontière, ce qui n'est pas sans inquiéter.
Le chien n'a pas de visa, il ne peut pas traverser la frontière. Il va falloir le mettre en prison, c'est un immigrant clandestin. Il lui faudra un laissez-passer pour traverser du nord au sud. C'est pas dingue ça?
On a des étudiants qui parcourent peut-être 40 km de part et d'autre de la frontière pour aller à l'université ou au lycée. Comment vont-ils faire ?
La réalité, c'est que personne ne sait. Mais si le Brexit débouche sur une frontière fermée, alors il y a la possibilité de voir à nouveau patrouiller les soldats britanniques en Irlande du Nord.
Le retour des frontières entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord est un sujet de préoccupation majeure. De Dublin à Belfast, tous s'interrogent pour savoir ce que pourrait devenir à l'avenir la ligne de séparation entre les deux territoires. En effet, alors que l'accord de paix de 1998 avait permis de mettre fin aux violences qui firent plus de 3500 victimes sur près de trois décennies, le Brexit a fait ressurgir les vieilles querelles, mais aussi, plus inattendu, a mis à l'agenda politique une question impensable, impensée depuis des années, celle de la réunification. Alors que depuis 1921, les six comtés à majorité protestante d'Irlande du Nord sont rattachés au Royaume-Uni, voilà que l'hypothèse de les voir rejoindre les 26 comtés à majorité catholique réapparaît. Alors faut-il croire à la réunification de l'Irlande? Quelles sont les raisons d'y croire? Les conséquences économiques suffiront-elles à convaincre les différentes parties? Et d'ailleurs, quelles pourraient être ces conséquences précisément? Au-delà des interrogations économiques, il faudra nous interroger aussi sur les obstacles purement politiques, en Irlande du Nord bien sûr, mais aussi largement au-delà. Notre invité ce matin pour évoquer cette question, Christophe Gillissen, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de civilisation irlandaise à l'université de Caen, auteur entre autres de cet ouvrage « Une relation unique de points, les relations irlando-britanniques de 1921 à 2001 » qui était paru aux presses universitaires de Caen. Alors, la situation entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande s'était stabilisée depuis les accords de paix de 1998. On était arrivé à une situation quand même relativement apaisée. Là, avec le Brexit et la perspective d'un retour des frontières, les inquiétudes sont fortes. On craint les conséquences économiques. C'est une situation qui potentiellement pourrait faire rejaillir aussi les vieux démons. C'est l'une des conséquences inattendues de ce référendum du 23 juin dernier par lequel les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Est-ce que, Christophe Gillissen, vous pensez que les conséquences internes du Brexit, alors pour l'Irlande, mais on peut aussi penser à l'Écosse, qui ont majoritairement, rappelons-le, voté pour le Remain, ont été, selon vous, débattues à la hauteur de l'enjeu que ça représente? Pour le dire autrement, est-ce que les Britanniques avaient conscience des conséquences internes que pouvait avoir le Brexit?
À mon avis, pas du tout. C'est-à-dire que ce référendum qui a eu lieu le 23 juin 2016 était avant tout un exercice destiné à maintenir l'unité du Parti conservateur. Une sorte de concession aux europhobes conservateurs, et le gouvernement dirigé alors par David Cameron était persuadé de pouvoir remporter ce référendum. Donc c'était, je ne dirais pas un simulacre, mais il n'avait jamais été imaginé une seconde que le LIV pourrait l'emporter. Et donc, depuis le 24 juin 2016, le gouvernement britannique est en train de découvrir petit à petit toutes les implications de cette décision populaire avec une certaine inquiétude, un certain effarement et en particulier le risque d'une certaine implosion du Royaume-Uni lui-même avec des relations extrêmement tendues avec l'Écosse parce que l'Écosse en 2014 avait voté à 55% contre l'indépendance. Aujourd'hui, le contexte est radicalement différent. Il s'agit de choisir entre une indépendance au sein de l'Union européenne ou alors quitter l'Union européenne pour rester au sein du Royaume-Uni. Et il faut savoir que les Écossais sont très majoritairement pro-européens. On l'a vu lors du référendum, ils ont voté à plus de 60% pour le maintien.
Et visiblement, les Nord-Irlandais également.
Alors les Nord-Irlandais également, avec une majorité un petit peu plus faible, 56%, mais ce n'est pas rien. Et effectivement, en Irlande du Nord, comme en Écosse aussi d'ailleurs, l'Europe est perçue de manière beaucoup plus favorable qu'en Angleterre, pour différentes raisons. Il y a en particulier tout ce qui relève des subventions européennes qui sont très importantes en Irlande du Nord. C'est une région où l'agriculture pèse toujours d'un poids considérable. Donc la politique agricole commune est importante, est appréciée. Il y a les fonds structurels destinés aux régions les plus pauvres. L'Irlande du Nord en fait partie. Et puis il y a des programmes spécifiques qui ont été mis en œuvre à partir des années 1990 pour consolider le processus de paix.
Alors justement, on va y venir parce que ça fait partie des conséquences économiques mais qui sont effectivement intimement lié à la stabilité politique. Mais sur la question des violences, parce que le projet européen a permis quand même aux Irlandais du Sud et du Nord de s'inscrire quand même de facto dans une perspective transnationale. Ça a permis de dépasser les clivages, d'aller au-delà des questions identitaires, d'aller au-delà des questions religieuses. Et il y a une crainte aujourd'hui que la sortie de l'Union européenne ravive les anciennes tensions. Concrètement, quels sont les risques? Est-ce qu'on pourrait voir réémerger des violences entre les différentes communautés? Pourquoi pas des actes de terrorisme? Est-ce que ça vous paraît possible?
Je ne l'exclus pas. Je ne pense pas qu'on assiste dans le court terme à une résurgence de la violence, mais de toute évidence, il y a là une situation explosive qui pourrait, parce qu'on le sait, les accords de paix ont été signés il y a bientôt 20 ans, mais de part et d'autre, il y a un certain nombre d'extrémistes, de dissidents qui sont très peu nombreux, mais qui cherchent, avec des explosions, des attentats, à déstabiliser les institutions nord-irlandaises. Avec ce nouveau contexte du Brexit, il y aurait là un terreau qui leur serait favorable. Ils pourraient gagner de l'influence et parfois il suffit de pas grand-chose, hein, un attentat, quelque chose qui frappe l'opinion publique pour faire basculer la région. Je n'exclus pas du tout.
Les conséquences économiques, Christophe Gillissen, sur le plan théorique, normalement, il faudrait matérialiser les quelques 500 kilomètres de frontières qui vont devenir de facto des frontières extérieures de l'Union européenne, dans l'hypothèse d'un retour des frontières. Quelles pourraient être les conséquences économiques pour les territoires de part et d'autre, ce qui revient peut-être à pointer du doigt l'imbrication des économies de part et d'autre de la frontière?
C'est une imbrication qui va très très loin. Et donc le risque de voir la frontière extérieure de l'Union européenne séparer l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, ou même l'Irlande du Sud et le Royaume-Uni en général, le Royaume-Uni est le premier marché pour la République d'Irlande, est une perspective qui inquiète beaucoup à Dublin. L'Irlande exporte environ 16% de ses biens et de ses services vers le Royaume-Uni.
C'est son premier partenaire commercial.
Absolument. Donc les choses ne se présentent pas très bien du point de vue des négociations sur un accord commercial avec le reste de l'Union européenne. Et donc le risque de voir toutes ces exportations frappées de droits de douane, contrôlées aux frontières, etc., laisse présager, et un certain nombre d'agences ont déjà proposé des statistiques assez précises, laisse présager une baisse de l'emploi en Irlande, également en Irlande du Nord, une baisse des rentrées fiscales et une baisse de la croissance économique. Donc les perspectives ne sont pas réjouissantes, d'autant qu'il faut se souvenir que l'Irlande, le sud, la République, a été très durement touchée par
la crise de 2007-2008. Alors absolument. C'est vrai qu'elle s'est un petit peu remise, mais elle est encore très vulnérable, notamment avec une dette qui est très importante. Je crois que c'est un peu plus de 90% du PIB. Donc évidemment, on imagine que cette économie irlandaise, elle est encore très vulnérable au choc extérieur. Et ça en ferait partie, ça serait un choc énorme.
L'économie est vulnérable, fragile, les choses vont mieux, mais c'est une économie très ouverte et donc les chocs extérieurs peuvent l'affecter durement. Le choc du Brexit pourrait être tout à fait redoutable, surtout que dans le même temps, le président des États-Unis a décidé de revoir la fiscalité des entreprises américaines qui travaillent à l'étranger, et en particulier en Irlande, où elles sont très nombreuses. Donc il y a là une conjonction de facteurs qui n'est pas de bon augure.
Sur la question agricole, parce que l'un des secteurs effectivement où les conséquences économiques pourraient être particulièrement désastreuses, c'est bien celui de l'agriculture. Vous rappeliez que cette agriculture a profité assez largement des financements de la PAC. Très concrètement, quelles conséquences vous voyez de la fin des financements pour l'agriculture ?
Alors, ces subventions seront compensées partiellement seulement par le gouvernement britannique lui-même. Donc, il y aura un manque à gagner considérable pour les exploitations agricoles en Irlande du Nord, et elles auront du mal à s'imposer face à la concurrence. Donc, il y a le risque d'un secteur de l'économie qui sera sinistré.
Et au-delà des conséquences purement économiques d'un retour des frontières, il faut aussi rappeler que l'intégration à l'Union européenne, elle a constitué, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, un facteur de paix très important. Depuis plus de 20 ans maintenant, l'Europe verse des aides pour soutenir la paix. Alors c'est dans des programmes très vastes, ça va de la réinsertion des anciens combattants à des initiatives de coopération culturelle destinées à réconcilier les communautés. Là aussi, est-ce que vous êtes inquiet par la disparition de ces financements européens ?
Très inquiet même, parce que ce travail qui n'est pas très visible, qui n'est pas très médiatisé, est en fait d'une importance capitale sur le terrain. Il y a des réseaux qui se sont mis en place, des associations, des organisations, des programmes, et tout cela est important au quotidien pour donner à différentes personnes, vous parliez des anciens prisonniers, une place dans la société, mettre en place des coopérations, et sans financement, ces programmes-là ne pourront pas continuer. Ce qui risque donc de creuser le fossé entre les deux communautés, protestantes et catholiques. Et dans un contexte où la violence pourrait revenir, de toute évidence, ce n'est pas souhaitable.
Voyons alors les solutions possibles, Christophe Gillissen. On parlera tout à l'heure de la réunification, laissons-la de côté dans un premier temps. Michel Barnier, qui est donc en charge du dossier du Brexit, a dit qu'il ferait tout pour préserver les accords du vendredi saint 1998 et pour trouver des solutions sans revenir à des frontières en dur. Très concrètement, quelles sont les options ? Je mets de côté une fois encore la réunification, on verra tout à l'heure.
Alors, pour l'instant, certaines pistes commencent à être esquissées, mais tout cela reste encore très flou, d'une part, parce que les négociations n'ont pas encore véritablement débuté. Donc, la déclaration du mois d'avril du sommet européen a posé un certain nombre de principes. Pour le détail, il faudra voir. Ces principes, je les rappelle brièvement. D'une part, ils ont souligné à quel point ils étaient conscients de la place très particulière de l'Irlande dans le contexte du Brexit, et ils se sont engagés à tout faire pour aider l'Irlande à ne pas basculer dans des scénarios sombres. D'autre part, et ils ont précisé malgré tout que tout cela ne pourrait se faire que dans le cadre du droit communautaire. Donc ils feront des efforts, il y aura de la bonne volonté, mais il n'est pas question de réécrire les traités ou de prévoir un statut particulier pour l'Irlande.
Ça avait été pourtant évoqué, ça, c'était l'une des pistes de conférer à l'Irlande du Nord un statut spécial au sein de l'Union européenne. Alors évidemment, clairement, je pense que Londres ne va pas du tout apprécier cette idée-là, parce que je pense que d'ailleurs l'Écosse risque aussi de vouloir bénéficier de ce statut, mais ça a été quand même l'une des pistes, hein.
C'est l'une des pistes, et ça pourrait se traduire, par exemple, avec une frontière qui serait appliquée non pas entre les deux Irlandes, mais plutôt entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Pour différentes raisons. D'une part, la frontière terrestre, vous l'évoquiez, quasiment 500 kilomètres, est une frontière qu'il est extrêmement difficile de contrôler. Il y a près de 300 autoroutes, routes, chemins, etc.
Et pendant les années, on parle de 2 millions de véhicules qui traversent cette frontière chaque mois. C'est colossal.
Et s'il fallait contrôler tout cela, il faudra un déploiement de douaniers, de forces de l'ordre, de soldats sans doute, ce serait complètement disproportionné. Pendant les années du conflit, alors qu'il était vital de sécuriser cette frontière, l'armée britannique n'y est pas parvenue. C'est-à-dire qu'il détruisait les ponts, il mettait des obstacles pour bloquer l'accès aux véhicules, ou parfois il faisait sauter des explosifs pour qu'il y ait des cratères, pour que les routes ne soient plus praticables. Malgré cela, alors que l'enjeu était vital, il s'agissait de sauver des vies, et ils n'ont pas pu empêcher l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, donc qui se battait contre les forces de la couronne, d'acheminer des armes, des hommes sur cette frontière. Donc si demain il fallait envisager de sécuriser cette frontière terrestre, l'État britannique se trouverait confronté à un défi d'une ampleur majeure.
L'État britannique, mais aussi l'Union européenne, ça sera aussi à la charge de l'Union européenne de faire ça.
Tout à fait. Donc l'une des solutions pourrait être, et c'est ce qui avait été fait pendant les années du conflit, de transposer, pour ainsi dire, ou de déplacer cette frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, puisque la mer sépare ces deux parties du Royaume-Uni. Il n'y aurait plus besoin que de sécuriser les ports et les aéroports, ce qui est beaucoup plus envisageable, beaucoup plus facile. Et là, du coup, effectivement, l'Irlande du Nord se retrouverait dans une situation un petit peu particulière, à la fois dans le Royaume-Uni, à la fois à l'extérieur de l'Union européenne, mais finalement non séparée du sud de l'Irlande.
Ben oui, c'est très bien tout ça, Christophe Gillissen, mais qu'est-ce que vous faites de cet accord qui remonte aux années 1920, par lequel le déplacement des citoyens britanniques et irlandais est facilité dans les îles britanniques? C'est ce qu'on appelle la zone commune de voyage.
Oui, alors...
Qu'est-ce que ça devient, ça?
Il faut rappeler que l'Irlande du Sud et le Royaume-Uni, donc l'Irlande du Nord également, ne font pas partie de l'espace Schengen, pour des raisons liées, disons, à la volonté britannique de contrôler l'immigration. Étant donné l'imbrication entre les deux États et les mouvements de population, les familles transfrontalières, etc., un accord a été trouvé dès le début des années 1920 entre les deux États pour assurer cette libre circulation des personnes. Quelle solution si l'un des deux États sort de l'Union européenne? On peut imaginer là aussi des solutions. Ce sera, il faudra être créatif, avoir de l'imagination, mais on peut imaginer que des contrôles se fassent au point d'entrée. Donc quelqu'un qui rentrerait en Irlande ou au Royaume-Uni serait contrôlé, son visa, etc., et pourrait ensuite circuler librement. Mais il n'est pas sûr que cela satisfasse tous les autres membres de l'Union européenne, parce que ça voudrait dire que quelqu'un pourrait entrer en Irlande en passant par le Royaume-Uni, sans être contrôlé par un État membre de l'Union européenne. Et là, il n'est pas sûr que ce soit accepté.
Oui, il y a un certain nombre d'États membres de l'Union qui risquent de s'y opposer. Ce qui est sûr, c'est que même s'il n'y a pas de frontière, disons, visible, il y aura forcément une frontière. Il y aura des droits de douane entre les deux territoires. C'est d'ailleurs ce que rappelait Gary Adams, qui est l'un des chefs de file du Sinn Féin. Il disait que ce sera une frontière fermée, tout stapage autour d'une frontière souple est illusoire. Alors, on ne sait pas la forme qu'elle prendra, mais certains disent que de toute façon, il y en aura bien une, parce que pour la question des droits de douane, il va falloir régler ce problème.
Oui, oui. Alors ça, c'est l'hypothèse, disons, pessimiste. Je pense que Adams, en tant que président du Sinn Féin, développe cet argumentaire pour justifier la réunification comme solution. Cela dit, avec un petit peu de bonne volonté de part et d'autre, on peut imaginer des solutions intermédiaires.
Lesquelles ?
Mais par exemple, les exportations britanniques et irlandaise serait contrôlée dans les ports et les aéroports britanniques. Là où la question devient très compliquée et peut-être impossible à résoudre, ce sont les exportations de l'Irlande du Nord vers l'Irlande. Et on sait que l'Irlande du Nord exporte à peu près un tiers de ses exportations vers l'Irlande, la République, donc l'Union européenne. Et là, effectivement, les choses se corsent. Et il faudra des contrôles, mais ces contrôles pourraient peut-être avoir lieu à Dublin ou dans les grandes villes.
Revenons donc sur cette question du Brexit et sur ce qu'elle pourra avoir comme conséquence sur les fameux accords de paix de 1998 dont je parlais tout à l'heure. Il y a une voix qui s'est élevée assez récemment pour dire que ça allait forcément changer des choses. À l'époque, il était Premier ministre et à l'époque, il avait justement négocié cet accord de paix. C'était Tony Blair.
Il y a en effet des parties de l'accord du vendredi saint qui mentionnent que la Grande-Bretagne et que la République d'Irlande font partie de l'Union européenne. Donc il y a évidemment des changements sémantiques. Mais je ne pense pas que cela doive signifier un changement en substance. Je pense que la meilleure chose à faire est de traiter l'Irlande du Nord comme un cas spécifique, de traiter cette frontière comme un cas spécifique et de garantir le maintien de la zone de voyage en commun pour que les gens puissent continuer à voyager librement. Le plus gros défi, vraiment, il sera pour l'Union européenne, parce qu'après le Brexit, cette frontière sera entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
D'accord, donc l'accord du vendredi saint avait été formulé en partant du principe que les deux pays, le Royaume-Uni et l'Irlande, faisaient partie de l'Union européenne. Ça ne serait plus le cas lorsque le Brexit sera effectif. Une partie de l'accord doit donc être amendée, disait Tony Blair. Est-ce que la perspective d'un nouvel accord est possible selon vous et même un simple amendement exigerait évidemment que les différentes parties soient d'accord, ce qui n'est pas du tout gagné. Concrètement, la question que je me pose, Christophe Gillissen, c'est quelles sont les conséquences du Brexit sur ces accords de paix ? Est-ce que le fait que précisément l'une des parties sorte de l'Union européenne fait que ces accords deviennent caducs ? Qu'on comprenne les choses.
Du point de vue constitutionnel, c'est extrêmement épineux parce que les accords font en effet référence de manière explicite au contexte européen, l'Union européenne. Dès lors que le Royaume-Uni et donc l'Irlande du Nord ne fait plus partie de l'Union européenne, l'accord est-il caduc ? Doit-il être amendé ? Ce serait ouvrir une boîte de Pandore. Il n'y a pas beaucoup d'appétit, j'imagine, pour réécrire les accords, pas dans le court terme en tout cas. Mais ça pose une vraie question, d'autant plus que actuellement en Irlande du Nord, les institutions sont paralysées et une sortie de crise sera suffisamment difficile à négocier sans en plus réécrire les accords, me semble-t-il. Donc je pense que les gouvernements britanniques et irlandais n'insisteront pas outre mesure sur la nécessité de réécrire l'accord, au moins dans le court terme. Mais d'un point de vue constitutionnel, juridique, il y a là un vrai problème.
Mais peut-être y avoir des acteurs qui vont expliquer que cet accord n'existe plus et qu'il faut le réécrire. Tout le monde, vous pensez, il y aura un statu quo pour dire qu'on ne touche pas à ces accords, même si du point de vue juridique, on l'avait prévu dans un cadre européen et que ce cadre européen vole en éclats.
Alors le traité est un traité international qui a été ratifié, déposé aux Nations Unies. Les références à l'Union européenne y apparaissent, mais ne sont pas forcément au cœur des dispositifs clés. C'est-à-dire que cela apparaît dans le préambule, cela apparaît à des endroits peu stratégiques, on va dire. Alors c'est important, certes, mais ça ne remet pas en cause les institutions qui ont été créées en vertu des accords de paix. Et donc je pense qu'il y a moyen de louvoyer, en tout cas dans le court terme, pour éviter une réécriture des accords.
Avant de retrouver un nouvel invité, vous nous rappelez quand même en quelques mots ce que prévoyait justement cet accord de 98 et peut-être en particulier sur la question de la réunification qui était évoquée dans le texte.
Absolument. Donc, alors il y a deux aspects principaux à ces accords de paix. D'une part, les deux populations, protestantes et catholiques, gouvernent ensemble. Donc il n'y a plus de domination ou de discrimination contre l'une des deux communautés. Et des liens constitutionnels ont été établis entre le Nord et le Sud. Il y a un Conseil des ministres qui réunit des ministres du Nord et du Sud. Et ils coopèrent, ils cherchent à trouver des accords sur des questions d'intérêt commun. Par exemple, le tourisme, les transports, les infrastructures, etc. Donc une réunification ou une ébauche de réunification qui était une concession aux nationalistes catholiques. Et d'autre part, le maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Donc là, c'est la concession aux protestants unionistes. Donc voilà les deux aspects centraux des accords.
Sur la question de la réunification, elle est prévue, mais elle doit passer par voie référendaire.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il est prévu qu'à n'importe quel moment, si le gouvernement britannique décide que le contexte le justifie, il procédera à un référendum pour demander aux habitants s'ils souhaitent la réunification avec le Sud ou non.
Le Brexit pourrait-il pousser à la réunification de l'Irlande ? C'est notre grande question qu'on se pose ce matin avec Christophe Gillissen.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Vous êtes encore en Irlande du Nord ici, et là en face vous voyez la République d'Irlande. C'est presque impossible, impensable, d'imaginer de nouveau une frontière dure ici, avec un poste de douane. Voilà, la frontière est à environ 100 mètres de nous, par ici. C'est très largement entouré par la République d'Irlande. C'est pourquoi c'est très fortifié. Beaucoup de policiers ont été tués ici. Là, il y a 20 ans, il y avait un accès pour les véhicules, et ici un accès pour les piétons. Mais il y avait toujours au moins 4 ou 6 gardes en permanence, patrouillant à l'affût du moindre signe qui laisserait penser à la préparation d'une attaque.
Voilà, petit Go, petit village de 400 habitants qui, depuis 1921, est coupé en deux, avec d'un côté l'Irlande du Nord, de l'autre la République d'Irlande. On avait là une petite visite des environs frontaliers avec Tom Elliott, député unioniste de la circonscription, ici même, ou durant la période dite des Troubles. Il a longuement patrouillé, alors membre d'un régiment de l'armée britannique. Quelques décennies d'intégration européenne et de processus de paix plus tard. La frontière, on le voit, s'est estompée, mais qu'adviendra-t-il de petit Go après le Brexit? Des villages coupés en deux, des frontières jusque là invisible, mais que le Brexit menace de faire ressurgir avec les fantômes du passé. On va écouter un nouvel invité, c'est Cathal McCall, qui est depuis Belfast avec nous, qui est professeur de politique et d'études internationales, un spécialiste des questions frontalières à la Queen's University de Belfast. Il est au micro de Clément Salazar.
When we cross the Irish border, it can actually be very difficult at the moment to identify it.
Aujourd'hui, il est très difficile d'identifier le moment où on traverse la frontière. Pour vous raconter une anecdote, j'ai des étudiants français de Grenoble ou de Lyon en Erasmus qui viennent ici à Queen's, à Belfast. Et bien entendu, dès qu'ils en ont l'occasion, ils veulent aller à Dublin. Et alors je leur dis, ok, alors prenez le bus pour Dublin et essayez de repérer la frontière. Mais ils ne la trouvent jamais. La frontière est complètement ouverte et très difficile à identifier, à moins de savoir précisément ce que l'on cherche. Bien sûr, il y a quelques signes de changement. Par exemple, pour certains panneaux de signalisation, on passe des miles aux kilomètres, en descendant du nord au sud, où il y a un léger changement dans la largeur des routes. Mais il faut avoir vraiment un œil avisé pour repérer où se situe la frontière.
Donc rien, finalement, ne matérialise le passage de cette frontière, et c'est le cas depuis 1998, depuis l'accord du Vendredi Saint. Depuis quand ne voit-on rien à cette frontière ?
Well, it certainly started. That was the foundation stone for softening the border.
Oui, c'est bien entendu l'une des raisons fondamentales de cet assouplissement, mais je crois que même avant, il y avait déjà une frontière relative. Déjà, bien sûr, la mise en place du marché unique européen en 92 avait fait disparaître les postes de douane. Mais en 92, il y avait encore des conflits ici, donc la frontière était gardée par les forces de police britanniques. Ensuite, cela s'est progressivement atténué jusqu'à complètement disparaître autour des années 2000.
L'une des motivations premières du vote pour le Brexit était la remise en cause pure et simple de la libre circulation des personnes, avec ces travailleurs détachés devenus indésirables. Pour répondre à ces exigences, donc de non-libre circulation, la mise en place de frontières dures est-elle inévitable, selon vous, Cathal McCall ?
The hardening of the border is not, to my mind, inevitable.
Le durcissement des frontières n'est pas un processus inévitable, mais cela dépend beaucoup des personnes qui sont parties prenantes, et notamment de l'attitude du gouvernement britannique. Et à ce stade de la négociation, nous n'en sommes qu'au début. Ils ne se sont pas vraiment montrés prêts à faire des compromis. Ils veulent quitter le marché unique. Ils sont très ambigus sur le rétablissement des contrôles douaniers à l'entrée de l'Union européenne. Cela signifierait le retour des postes de douane entre vous, entre l'Europe et le Royaume-Uni. Il y a comme ça de nombreux signes peu favorables au compromis qui m'inquiètent et inquiètent ceux qui, comme moi, étudient les politiques irlandaises depuis une vingtaine d'années.
Theresa May, la première ministre britannique, a pourtant déclaré que personne, je cite, ne voulait un retour aux frontières du passé. Elle se dit consciente des enjeux pour l'Irlande.
That's just a cliché.
Alors c'est un peu cliché, qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que cela signifie vraiment, c'est que les futures frontières seront peut-être différentes de celles que nous avons connues. D'accord, il peut y avoir un durcissement des frontières sans que cela signifie un retour au passé, par exemple avec l'utilisation de nouvelles technologies pour leur sécurisation. De telles phrases ne veulent pas dire grand-chose à mon avis.
Oui, alors justement, sur ces questions de nouvelles technologies, des frontières électroniques qui vérifient ou scannent, par exemple, les plaques d'immatriculation de chaque véhicule, cela signifierait des frontières qui seraient à la fois dures, mais invisibles.
Well, up to a point. Unfortunately, I look around Europe for examples of this so-called invisible border, and I'm not seeing any.
J'ai cherché des exemples de ce type de frontière invisible en Europe et je n'en vois aucune. Je suppose que c'est le cas entre la Norvège et la Suède, entre la Norvège et l'Union européenne, mais au sein du marché unique, de l'union douanière, on observe encore des contrôles, des files d'attente, des embouteillages. Bien sûr, on a mis en place des dispositifs de suivi pour le transport des marchandises qui leur permettent de passer plus rapidement. Mais il y a encore des contrôles physiques à la frontière. Pour contrôler les humains, il faut un humain. Et c'est également le cas à la frontière entre Singapour et la Malaisie, où des contrôles frontaliers électroniques ont été mis en place, mais il y a encore de nombreux points de contrôle, notamment pour les personnes qui se rendent à Singapour depuis la Malaisie.
Selon vous, Cathal McCall, cette frontière se matérialisera donc d'une manière ou d'une autre. Et c'est le risque pour vous de réveiller les stigmates de la guerre, de raviver des tensions ?
Well, I would be cautious about saying that there would be a return to conflict.
Je serais très prudent avant de parler d'un retour du conflit. Je ne pense pas que l'on retournera à l'état de guerre des années 70 et 80. Mais je pense qu'il est possible que des incidents isolés se multiplient. Nous avons toujours un groupe d'actifs de dissidents républicains. Un poste de frontière est un endroit par définition un peu éloigné. Et il est très possible d'imaginer un activiste dissident opposé à l'idée de frontière qui voit là une cible potentielle. J'imagine que les forces policières et douanières sont conscientes de cela. Et donc il pourrait y avoir une forme de militarisation pour sécuriser la frontière. Les postes de douane seraient sans doute appuyés par la présence de policiers et de militaires. Ça ne serait pas un véritable retour au conflit et à l'état d'urgence, mais cela pourrait se reproduire de manière plus diffuse. Il y a eu déjà des troubles de ce type à la fin des années 50 et 60 avec la campagne des frontières de l'IRA, la Border Campaign, qui n'a pas abouti, mais qui consistait à faire exploser des postes de douane.
Ma formule ne plairait peut-être pas à une fameuse femme politique britannique, Margaret Thatcher, mais il y a une alternative. Ne serait-il pas possible de renforcer plutôt les frontières de l'île ?
Well, I would argue that that would be the least worst alternative. I think that certainly it would be much easier to implement given the small number of.
Je pense que cela serait la moins pire des solutions. Ce serait tout d'abord la plus simple à mettre en place, étant donné le nombre limité de ports et d'aéroports à l'ouest, et le contrôle frontalier pourrait être fixé au niveau de ces ports et aéroports. Vous savez, la frontière irlandaise fait 500 km de long et il y a environ 200 points d'entrée. C'est probablement l'une des frontières les plus denses en Europe au regard du nombre de routes qui la traversent. C'est donc presque impossible à renforcer complètement. Donc la solution que vous mentionnez, qui consiste à renforcer les frontières autour de la Grande-Bretagne, paraît plus facile à envisager. Le problème, c'est qu'elle ne conviendrait sans doute pas aux unionistes en Irlande du Nord.
Que pensez-vous alors, pour finir, de l'hypothèse d'une Irlande réunifiée ? Est-ce que c'est souhaitable ou même crédible ?
C'est en effet frappant de voir que la question de la réunification irlandaise est devenue centrale dans le débat sur le Brexit ici. Il y a quelques années, il aurait été impensable d'entendre parler de réunification, mais la question est désormais inscrite à l'agenda politique. Et cela ne vient pas seulement d'Irlande du Nord, mais aussi de certains partis en Irlande du Sud. Et c'est vraiment positif, c'est une évolution qui me réjouit. Mais il faut prendre en compte l'opposition des unionistes d'Irlande du Nord qui sont défavorables à toute idée de réunification. Et ce, pas seulement pour des raisons économiques. Le fait que des études montrent que le Brexit sera nuisible à l'économie nord-irlandaise n'est pas suffisant pour les convertir au projet de réunification. Ils ont des attaches culturelles fortes avec la Grande-Bretagne, donc non, cela ne me paraît pas très réaliste pour le moment.
Cathal McCall depuis Belfast, professeur de politique et d'études internationales à la Queen's University de Belfast, au micro de Clémence Alezard. Christophe Gillissen, on vous retrouve ici en plateau. réaction libre sur les propos qui viennent d'être tenus, et puis peut-être sur en particulier la question de la réunification, parce que l'autre solution qui désormais devient discutable, envisageable, pensable, c'est celle de la réunification de l'Irlande. Le Brexit présente cet avantage de faire de cette question de la réunification un sujet qui politiquement non seulement est crédible, mais devient en réalité absolument incontournable.
Absolument. Il y a un an, avant le référendum de juin 2016, la réunification, on n'en parlait plus. Ce n'était plus à l'ordre du jour, ce n'était pas envisageable. Et là, tout d'un coup, c'est un vrai sujet de discussion. Parce que, d'une part, on l'a dit, c'est prévu dans les accords de paix. Un référendum peut être organisé, et si une majorité se prononce pour la réunification, elle sera mise en œuvre. Et lors du sommet européen du mois d'avril dernier, il a été rappelé explicitement que si l'Irlande du Nord choisissait la réunification avec le Sud, elle resterait donc membre de l'Union européenne.
Explicitement. Alors, c'était effectivement le désir d'Enda Kenny, qui est le Premier ministre de l'Irlande, mais je ne crois pas que cette option soit présente dans le texte final officiel. Je pense que du côté européen, tout le monde est d'accord pour s'accorder sur cette option-là, mais je ne crois pas que ça ait été officiellement formalisé.
C'était peut-être dans une déclaration, alors, qui a accompagné le texte, mais c'est-à-dire que, comme c'est prévu dans les accords de paix, ils ont dit, effectivement, que la situation ne changeait pas de ce point de vue-là, contrairement à l'Écosse, par exemple. Donc, on parle de la réunification, c'est une possibilité, et on comprend qu'avec le Brexit, la réunification pourrait être une solution à un certain nombre de défis que nous avons évoqués, la frontière, la circulation des personnes, le commerce, les subventions européennes. Mais la pierre d'achoppement, comme l'a rappelé le collègue de Belfast, effectivement, c'est la position de la population protestante unioniste, qui, pour des raisons historiques, politiques, culturelles, identitaires, tient absolument à se définir comme étant britannique et à ne surtout pas accepter d'être réunifié au Sud et donc de devenir une minorité dans un pays majoritairement catholique.
Est-ce que c'est la seule pierre d'achoppement ? On va évoquer dans quelques instants la crise politique et institutionnelle qui se joue en ce moment en Irlande du Nord, mais restons du côté de la République d'Irlande, donc du côté du Sud. Est-ce que les responsables politiques, est-ce qu'il y a un consensus chez les responsables politiques en Irlande, en République d'Irlande, pour cette réunification ? Premier point. Et est-ce que l'opinion y est favorable. Deuxième point.
Je vais vous donner une réponse de Normand. Oui et non. C'est-à-dire que, théoriquement, la réunification est l'objectif officiel du gouvernement irlandais. Dans la pratique, je ne pense pas qu'il le souhaite du tout en ce moment, parce que ce serait une opération d'une complexité incroyable à mener. On peut penser par exemple à la réunification allemande au début des années 90.
C'est quand même pas le même défi, mais il n'y a pas la même population.
Il y a des différences importantes, mais c'est extrêmement compliqué à un moment où le pays est déjà en crise. Avec le risque d'explosion politique, personne au gouvernement à Dublin ne souhaite la réunification dans un avenir proche. Donc c'est une sorte de vœu pieux, oui, mais pas tout de suite. Et je crois que, en tout cas, d'après d'après les sondages, l'opinion publique est plutôt favorable sur le papier. Mais si on leur pose la question d'une réunification imminente, avec par exemple des hausses d'impôts, la réponse est non.
C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que au fond, quand je vous entends, j'ai le sentiment que en réalité tout le monde est favorable. Quand je dis tout le monde, je pense aux Britanniques, je pense à l'Irlande du Nord, je pense à l'Irlande. Tout le monde est favorable au statu quo en réalité, derrière les discours. Et d'une certaine manière, parce qu'on présente depuis tout à l'heure une Grande-Bretagne en position de faiblesse face à cette question, qui a un défi absolument immense devant elle, ce qui est vrai. Mais d'une certaine manière, est-ce que le défi n'est pas plus immense encore pour l'Union européenne ? Je m'explique. En réalité, on pourrait se retrouver dans une situation où Londres, finalement, affirme que, la frontière reste comme elle est, c'est-à-dire quasiment inexistante, et que si l'Union européenne a besoin, a envie de remettre une frontière, eh bien qu'elle se débrouille seule après tout.
Ce serait une stratégie tout à fait intéressante et sans doute efficace. Après, est-ce que pour des raisons d'ordre symbolique, le gouvernement britannique pourrait annoncer les choses de la sorte? Je n'en suis pas persuadé, parce qu'il faut voir aussi que dans ce référendum et dans les négociations qui ont commencé depuis, l'impression largement partagée au niveau des capitales européennes, c'est que Londres, finalement, ne prend pas ses décisions en fonction de l'intérêt national, disons, étudié avec une certaine objectivité, une certaine distance. Les décisions sont prises en fonction des dynamiques internes du Parti conservateur. Et le Parti conservateur est travaillé par toute une série de mythes, on va dire, identitaires, entre autres, par une sorte de rejet très fort de l'immigration, par les symboles de la souveraineté. Or, les frontières sont l'une des incarnations, on va dire, de la souveraineté. Donc, il me semble qu'une telle approche pourrait effectivement désarçonner les autres capitales européennes, mais je n'imagine pas vraiment des ministres conservateurs aujourd'hui adopter ce discours-là.
Oui, mais vous savez que les Britanniques sont aussi de grands pragmatiques et ils savent très bien que ce n'est pas pareil d'avoir une frontière exposée à l'immigration en Irlande et dans le sud de l'Europe. Pour le dire autrement, les migrants risquent moins d'arriver en masse sur les côtes irlandaises que ce qu'ils arrivent sur les côtes italiennes, grecques. C'est pas pareil d'arriver à Lampedusa que d'arriver en Irlande du Nord.
Absolument, le chemin est beaucoup plus long, beaucoup plus ardu. Cela dit, les filières de passeurs sont assez rapides à s'adapter à un nouveau contexte. Donc si des frontières plus dures sont érigées ailleurs, les nouveaux maillons faibles sont vite identifiés et le risque de filières qui apparaissent, qui transitent par l'Irlande pour accéder à l'Irlande du Nord et ensuite à la Grande-Bretagne ne peut pas être exclu.
On va s'intéresser à la crise politique en Irlande du Nord.
Je pense que les gens voient ma vie dans son ensemble. Ils connaissent mon engagement dans l'IRA quand j'étais jeune. Et ils savent aussi que j'ai été au cœur du processus de paix pendant plus de 20 ans. Et ils en sont reconnaissants. Ils me disent qu'il est vraiment temps que ça change et qu'ils veulent quelqu'un qui va défendre les gens ordinaires d'Irlande qui ont tant souffert.
Cet homme qu'on vient d'entendre, c'est Martin McGuinness, ancien chef d'état-major de l'IRA, devenu par la suite une figure emblématique du dialogue, membre du Sinn Féin, le parti nationaliste. Il avait joué un rôle déterminant, il le rappelait, pour permettre cet accord de paix de 98. Et à partir de 2007, il a été vice-premier ministre nord-irlandais jusqu'à sa démission. C'était le 9 janvier dernier. Une démission consécutive à un scandale lié aux énergies renouvelables qui touche le gouvernement de la première ministre Arlene Foster, unioniste elle. Alors il se trouve qu'il est décédé, Martin McGuinness, très récemment, c'était en mars dernier, mais quoi qu'il en soit, cette démission a plongé l'Irlande du Nord dans une crise politique, puisque en vertu des accords de 98 qui régissent le partage du pouvoir dont vous nous parliez tout à l'heure entre les nationalistes et les unionistes, la démission d'une des parties entraîne de facto la démission de l'autre camp, en l'occurrence celui d'Arlene Foster, la Première Ministre, leader du parti unioniste. On va retrouver une nouvelle invitée, Agnès Maillot, qui est avec nous depuis Dublin. Bonjour Agnès Maillot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université de Dublin. Alors, la démission de Martin McGuinness a eu comme effet, je le disais, de provoquer cette crise, mais aussi de provoquer de nouvelles élections qui ont eu lieu début mars. Elles ont vu la victoire du parti unioniste démocrate, pro-britannique. Les deux partis avaient 3 semaines pour former un gouvernement de coalition, sauf qu'ils n'y sont pas parvenus. La première question, c'est sur quoi les discussions aujourd'hui entre les nationalistes du Sinn Féin et les unionistes du DUP ont échoué?
Alors, elles échouent sur plusieurs points. Et évidemment, le Brexit est un point important puisque les deux partis se sont positionnés de façon totalement antinomique sur la question du Brexit, le Sinn Féin étant pour le Remain, alors que les unionistes ont voté pour le Brexit. Mais il y a d'autres questions qui viennent compliquer encore davantage le débat. Il y a les questions de la gestion du passé, de la gestion des victimes, des responsables de la violence, de toutes ces questions qui ont été en partie gérées après les signatures de l'accord du vendredi saint, mais pour une bonne partie qui reste en suspens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des questions sociétales, comme le mariage pour tous, Le parti unioniste DUP y est fortement opposé, alors que le Sinn Féin a soutenu le référendum en République et soutient et cherche à obtenir l'égalité en Irlande du Nord, ou les questions d'avortement, qui restent aussi des questions extrêmement sensibles en Irlande en général, mais en Irlande du Nord en particulier. Les questions culturelles, la place de chacun dans cette Irlande du Nord qui reste encore très divisée sur des questions sensibles comme la langue irlandaise. Donc tout ça fait qu'on a un cocktail extrêmement sensible et volatile dans les négociations, quelles qu'elles soient.
Donc des questions culturelles, des questions linguistiques, des questions aussi sociétales. Vous nous disiez, les deux parties avaient 3 semaines pour trouver un accord. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Le gouvernement de Londres a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 29 juin. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord, pour une raison assez simple, c'est que s'ils n'y parviennent pas, c'est Londres qui reprend la main et qui va gérer cette province, qui n'est pas arrivée depuis une dizaine d'années maintenant. Donc il va falloir qu'ils se mettent d'accord.
Et c'est la seule question sur laquelle ils semblent à peu près d'accord, c'est qu'ils ne veulent pas voilà. d'une administration directe de Londres. Donc ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est effectivement de se mettre d'accord. Alors le Sinn Féin a une stratégie qui semble pour lui, pour l'instant, lui réussir. Ce qu'il cherche à faire, c'est dépasser le DUP, qui est son principal rival, pour obtenir, parce que en Irlande du Nord, il faut que les deux partis qui sont majoritaires dans chacun des deux camps cohabitent au sein d'une coalition. Mais celui qui a le plus de voix et le plus de sièges mène la coalition et obtient le poste de Premier ministre. Pour l'instant, on a toujours eu une avancée relativement confortable chez les unionistes, mais depuis le mois de mars, les deux partis sont vraiment au coude à coude, puisque le Sinn Féin a 27 sièges et le DUP 28. Donc on est dans une situation qui est beaucoup plus resserrée qu'il y a quelques années.
Alors on comprend parfaitement là la situation de blocage, et on comprend que les deux partis ont besoin de se mettre d'accord. Et j'arrive là au cœur de mon interrogation, et je voudrais vous entendre là-dessus, Agnès Maillot, si vous le voulez bien. Parce qu'à la suite de la démission de Martin McGuinness, le Sinn Féin a nommé un nouveau leader, c'est Michelle O'Neill, une ancienne ministre de l'Agriculture et de la Santé, qui est assez jeune, qui a 40 ans, qui incarne cette nouvelle génération de responsables qui n'ont pas eu d'engagement violent. Et dans la foulée du scrutin de mars, où le Sinn Féin, vous le disiez, est arrivé derrière les unionistes, mais quand même en augmentant un peu son nombre de sièges, Michelle O'Neill a réclamé un référendum sur la réunification de l'Irlande. Alors, est-ce qu'elle a une chance de l'obtenir à une échéance relativement courte? Est-ce qu'elle pourrait, finalement, est-ce qu'on pourrait, tout le monde pourrait se mettre d'accord, nationaliste et unioniste, sur l'hypothèse de ce référendum?
Alors, je pense que en l'état actuel des choses, non. Si on se base sur les sondages d'opinion qui ont été effectués, qui sont effectués assez régulièrement, mais même depuis le Brexit, on a effectivement observé une légère tendance à la hausse pour en faveur de la réunification, mais on reste très loin quand même d'une majorité qui se prononcerait en faveur de cette éventualité. Or, pour l'instant en tout cas, le ministre chargé de l'Irlande du Nord s'est toujours refusé à répondre à cette demande qu'ont les républicains ou les nationalistes sur un référendum en tablant sur le fait que pour l'instant il n'y a pas encore une portion suffisante de dans l'opinion publique qui serait pour une réunification. Donc pour l'instant, je pense que en tout cas, c'est peut-être pas forcément souhaitable, même pour les républicains, parce que la réponse pour l'instant serait non. Quand on regarde les sondages d'opinion, ce qu'on observe, c'est que la plupart des gens qui sont interrogés ne veulent pas d'une réunification tout de suite, mais ils envisagent une réunification à plus long terme, même depuis le Brexit.
Christophe, oui, je vous en prie, vous aviez quelque chose à ajouter, puis je donne la parole à Christophe Gillissen.
Je pense que la stratégie du Sinn Féin, c'est effectivement de continuer à faire parler de la réunification et de faire entendre son message. En même temps, est-ce que ça serait à leur avantage, là, tout de suite, d'avoir un référendum pour lequel l'issue serait pratiquement, avec une certitude pratiquement... certaines, enfin c'est un petit peu analogique, l'issue serait un non.
Donc, oui, parce que les sondages, effectivement, vous avez raison, montrent qu'aujourd'hui, alors ça dépend des chiffres, mais on a environ un peu plus de 60% des Irlandais du Nord qui sont opposés, pour le moment en tout cas, à la réunification avec le Sud. Christophe Gillissen, est-ce que vous êtes d'accord que pour le moment, cette hypothèse d'un référendum n'est pas encore arrivée? Alors, l'hypothèse est là et elle est poussée par les nationalistes du Sinn Féin, mais elle n'est pas pas encore à l'ordre du jour, finalement.
Oui, je partage entièrement cet avis, et il faut aussi situer les choses dans leur contexte. Vous l'avez dit, le Sinn Féin a une nouvelle dirigeante en Irlande du Nord, donc la nouvelle dirigeante doit s'affirmer. Et donc, réclamer un référendum, mais c'est un exercice incontournable pour un dirigeant du Sinn Féin. Il y a aussi le contexte électoral, c'est-à-dire que la première ministre britannique Theresa May a annoncé des élections anticipées qui auront lieu le 8 juin. Pour des raisons relatives là aussi au contexte anglais et au contexte du Parti conservateur. Pour l'Irlande du Nord, c'est une décision assez néfaste, puisque des élections s'annoncent, les deux partis, unionistes et nationalistes, ne peuvent plus négocier. Parce que dans un contexte électoral, il faut au contraire jouer la surenchère. Donc les négociations ne pourront véritablement débuter qu'après les élections du 8 juin. Et donc il restera à peu près 3 semaines jusqu'à la date butoir annoncée par le ministre britannique des Affaires nord-irlandaises.
Ouais, donc pour l'instant, ça reste un peu compliqué à courte échéance, mais on peut l'imaginer à plus longue échéance. D'abord parce que vous le disiez, Anne Esmaillot, finalement les gens sont plutôt favorables à cette réunification sur le long terme. Et puis il y a aussi un autre élément qu'il est peut-être intéressant de regarder, c'est les dynamiques démographiques aussi. Sur le plan démographique, les catholiques gagnent du terrain. Ils sont désormais 45% contre 48% de protestants. Et ça joue en faveur de cette réunification, Anne Esmaillot. En quelques mots, on arrive presque au terme de l'émission, mais je vous en prie.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les résultats des sondages d'opinion, on n'a pas du tout un monolithe catholique en faveur d'une réunification. Donc c'est bien plus complexe que ça, parce que finalement, depuis une vingtaine d'années, l'Irlande du Nord fonctionne, pas un cas, mais ça fonctionne à peu près. Le fait d'envisager une réunification, c'est extrêmement compliqué, parce que ça fait presque un siècle que ces deux parties de l'Irlande vivent séparément. Donc, malgré le fait qu'effectivement, il y a une progression de la minorité nationaliste qui bientôt sera plus ou moins sur un pied d'égalité d'un point de vue démographique, ça ne veut pas forcément dire que l'opinion en faveur de la réunification va se modifier de façon dramatique. Oui. Quand on parle de long terme, on parle de 20 ou 30 ans, on ne parle pas de 2 ou 3 ans.
Oui, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Merci beaucoup, en tout cas, Agnès Maillot, d'avoir été avec nous. Je rappellerai à nos auditeurs que vous êtes donc professeur à l'Université de Dublin. Vous étiez d'ailleurs ce matin en direct avec nous par téléphone depuis Dublin. Et puis vous êtes auteur, je le rappelle, de IRA, les Républicains Irlandais, qui était paru aux Presses Universitaires de Caen. Un grand merci à vous, Christophe Gillissen, de nous avoir accompagnés pendant une heure pour nous éclairer sur cette question irlandaise. Le Brexit pourrait-il pousser à la réunification de l'Irlande ? Oui, mais faudrait attendre. Un petit peu, on pourrait résumer comme ça.
Oui, ça me fait penser à ce phénomène géologique, les plaques tectoniques. Là, elles sont en train de bouger. Ça crée des ouvertures, des possibilités, mais la réunification n'est pas pour demain.
Merci beaucoup. En tout cas, je rappellerai pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, une relation unique, les relations irlando-britanniques de 1921 à 2001. C'était aux Presses universitaires de Caen. On mettra ça évidemment sur le site de France Culture. h 53, l'heure pour nous de retrouver le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on le sait, Donald Trump a été élu sur un programme protectionniste. Il estime que les pays comme la Chine, mais aussi l'Allemagne, livrent aux États-Unis une concurrence déloyale et il les menace de tarifs douaniers renchérissant fortement le prix de leurs produits aux États-Unis. Bonne ou mauvaise idée, qu'en dit-on chez les économistes, Brice?
Jeffrey Sachs, fameux économiste américain, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je cite « Donald Trump et son secrétaire au commerce Wilbur Ross continuent à raconter des absurdités économiques que les étudiants de première année apprennent à éviter. » Selon eux, le déficit commercial des USA n'est pas dû à une épargne insuffisante, mais à des manipulations auxquelles se livreraient l'Allemagne et la Chine, deux pays en excédent commercial. Fin de citation. Et le fameux prof d'économie de Columbia de délivrer un cours à ces deux politiciens, donc le président et son secrétaire au commerce. Comment calcule-t-on la balance des comptes courants d'un pays ? Eh ben, en soustrayant au montant de son épargne totale, celui de ses investissements intérieurs. On peut dire que les États-Unis connaissent un important déficit de leurs comptes courants dans la mesure où leurs investissements sont plus élevés que leur épargne full point. La cause de cette situation n'est pas la concurrence déloyale à laquelle se livreraient les Allemands, mais le fait que la politique américaine est défavorable à l'épargne. D'un côté, lorsque les démocrates sont au pouvoir, ils augmentent la dépense publique. De l'autre, les républicains baissent les impôts. Résultat, le budget fédéral est en déficit chronique. Le financement de la dette assèche l'épargne. L'Allemagne et la Chine servent de bouc émissaire aux erreurs de la politique américaine. Un son de cloche à ses voisins chez un autre grand professeur d'économie américain, Barry Eichengreen, qui enseigne lui à Berkeley. Il critique ce qu'il appelle la vision mercantiliste de Donald Trump, qui croit pouvoir mesurer la puissance d'un pays à ses excédents commerciaux extérieurs. Cette idée est évidemment la pire des sornettes économiques, selon Eichengreen.
Mais il faudrait commencer par se demander quelles sont les causes des succès allemands à l'exportation, leur stratégie du haut de gamme, la réputation d'excellence de leurs produits.
Pour Eichengreen, le fond de la leçon allemande aux Américains tient en une phrase. Les Allemands consomment moins qu'ils ne produisent. La différence, ce sont les exportations nettes. Il est absurde de les accuser, comme l'a fait Trump, de jouer sur une monnaie, l'euro, volontairement affaibli. L'Allemagne est ouverte aux exportations, notamment à celles en provenance des États-Unis. Elle est astreinte à des réglementations européennes qui lui interdisent de subventionner ses propres industries. Elle ne triche pas. Et non seulement elle n'a aucun moyen de faire baisser artificiellement le cours de l'euro, mais elle redoute plus que tout un affaiblissement de la monnaie commune, comme on sait. Le taux d'épargne en Allemagne est certes très élevé, concède Eichengreen, mais c'est simplement du fait que les Allemands sont conscients d'être un peuple vieillissant. Ils épargnent pour leur retraite parce qu'ils savent que les actifs seront bientôt trop peu nombreux pour assumer les pensions des seniors. Washington leur conseille d'abandonner l'euro et de revenir aux marques qui s'apprécieraient nécessairement, mais cela n'empêcherait nullement les Allemands de continuer à épargner. Selon la presse allemande, le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, a rédigé un mémo de 7 pages, on sait que Trump n'aime pas lire de longs rapports, destiné au gouvernement américain afin de répondre aux accusations de concurrence déloyale qui pèsent donc sur Berlin. Ce mémo comporte 29 points. Il fait remarquer que le solde commercial de l'Allemagne est certes très élevé, égal à 7,5% de son PIB, mais que son pays enregistre une tendance à la baisse régulière de celui-ci. Le commerce extérieur, le solde commercial, pas le PIB. En outre, un quart de cet excédent des comptes courants n'est pas dû aux exportations, mais au rendement des investissements allemands à l'étranger. Et les États-Unis sont les grands bénéficiaires de ces investissements allemands. Il y a des capitaux allemands dans plus de 3000 sociétés américaines. L'Allemagne soutient donc l'emploi aux États-Unis. Les déséquilibres entre partenaires commerciaux n'ont pas pour origine des décisions gouvernementales, poursuit le mémo allemand. Ils expriment les avantages comparatifs de chaque pays. Les Allemands sont bons dans la machine-outil et l'automobile, les Américains ont leur propre secteur d'excellence, rien ne les empêche de s'en créer d'autres. Alors les deux grands partis allemands divergent en ce moment sur la politique économique à mener. La CDU voudrait relancer la consommation intérieure par une baisse des impôts sur les ménages et les investissements par une baisse des prélèvements sur les sociétés. Ce serait raisonnable dans un pays où les comptes publics sont non seulement à l'équilibre, mais carrément bénéficiaires. Le surplus budgétaire a été de plus de 23 milliards en 2016 en Allemagne. Mais rien ne dit que les ménages ne profiteront pas de l'aubaine pour épargner davantage. Le SPD, de son côté, préconise d'importants investissements dans les infrastructures. Mais cela n'aura aucun effet rectificatif sur la balance des paiements de l'Allemagne. Elle restera fortement bénéficiaire dans ses échanges avec les États-Unis. Si l'administration Trump s'avisait d'enclencher une guerre commerciale, les États-Unis entraîneraient le monde entier dans une nouvelle crise. C'est ça que tu veux, Donald ?
Ah, je sais pas, je ne suis pas Donald. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut bien sûr retrouver sur la page de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.